traditionnelle radio-radio. Leur rediffusion vient d'être coupée. Heureusement que nous, on est en direct. Hein. Hey. Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 23 juillet 2005 et à ce qui paraît c'est l'été, non mince, je suis trompé de date, nous sommes le 13 août.
On n'est pas en juillet Xavier.
On est le 13 août et comme tous les samedis nous ouvrons Radio FMR, son antenne avec le magazine, mais cette fois-ci supplément week-end, BD et cinéma
télévision.
Sans télévision puisqu'il n'y a pas du sport. Et oui, donc à 15h ce sera du reggae avec Zarma Farai, 17h vie d'ordure, ce sera du punk, 20h ce sera la Stétéro Experience, 21h30 Liquid Sky, c'est l'électro, 23h Breakbeat Experience, et j'ai un putain de reflet dans le tableau, c'est pas pratique.
FMR, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Ah ça non, pas de là comme ça. Hé, hey, Thomas, t'es de retour.
Eh hein. Hey, ouais.
Ah ben...
Ça fait plaisir.
Oui. C'est du sport qui s'est barré en vacances, soit t'étais en maladie, donc j'espère que tu vas un peu mieux. Hein.
Ouais.
T'es d'attaque.
Ouais,
t'es d'attaque.
Super week-end, en fait. Active.
J'espère. On a vraiment un truc qui tue. Ray Christian pour commencer avec un featuring vocal de Veba.
Ouais, dire que tu critiquais Radio-Radio.
Yeah.
Radio FMR, c'est le supplément
ouais,
week-end. Pas de plaisanterie, merci. On va pas revenir sur cet épisode malheureux pendant plus de 10 minutes hein, quand même. Bon, s'il te plaît. Enfin, on va essayer. Donc, non, là on y va quand même, hein, c'est une émission de week-end, c'est une émission qui doit être cool, sympa, etc. Donc on reprend, Thomas, oui. Donc c'est un plaisir de te revoir.
Et tout, moi aussi.
Je vois que tu es d'attaque, mais franchement par contre tu pourrais changer de tenue parce que ça c'est un truc...
Qu'est-ce qu'il a mon maillot de Zidane?
Ah, je me disais bien, c'était bien pour ça que j'avais prévu la semaine dernière dans l'émission que j'ai pas pu faire, de passer à du sport.
Jésus revient.
Pardon, excusez-nous. Non mais comme c'est la dernière journée pour les soldes, on va peut-être changer de maillot, hein, je pense.
D'accord, hein, bon.
On doit rester encore les maillots de carambeu, je pense, hein, quelque part. Enfin, pardon, excusez-moi. Pas trop le fort, mon spout. Donc, nous passons à la revue de presse, s'il vous plaît, avec Pastèque, qui est une nouveauté dans la bande dessinée, puisqu'il s'agit d'un mensuel qui se lance en été. Bah oui, en général, la bande dessinée, on lance les journaux en été, parce que c'est là où les gens sont le plus disponibles pour les lire, donc c'est tranquille, c'est peinard. Il s'agit d'un numéro en avant-première qui est distribué gratuitement chez les BD libraires, qui est strictement réservé aux plus de 18 ans. Il est tenu par un certain Loïc Malnati, qui a été le dessinateur de Anaïr sur un scénario d'Anne Ploix, qui était une BD qui était très sombre, très noire, puis ensuite il en a fait une autre, toute une série chez Humanoïdes Associés, là aussi qui était très dark. Et là, il fait quelque chose de plutôt gentil, avec une couverture, s'il vous plaît, de Béatrice Tillet, celle qui avait fait chez Delcourt des superbes dessins où il était question de fées mécaniques qui étaient absolument superbes. Et dedans, on retrouve Bonifé, Alfred, Matisse, Olivier Ledroit, s'il vous plaît. Ouais. Thomas Cromwell qui fait... Ça y est, mémoire qui joue un peu avec moi. Il y a Brunswick, Olivier, Marco, bref, il y a vraiment du beau monde. Et moi, ça m'étonne parce que d'habitude, c'est les scénaristes qui lancent leur journal à partir de toutes les séries, de tous les copains qu'ils ont autour d'eux pour s'accompagner. Et ben là, figurez-vous que, ni plus ni moins, c'est un dessinateur qui s'en occupe, ce qui est plutôt couillu. Franchement, Loïc m'étonne pas mal. En plus, il a fait une très bonne sélection qui est assez positive, assez sympa. Ah ouais, point de vue dessin. Et c'est que de l'original. Hein. Oui, ça, c'est les pages d'Olivier Ledroit. Hein, ça fait... Et c'est un peu à la croisée pour donner une idée de fluide glacial, mais tout en couleur. Enfin, fluide est en couleur maintenant. Hein, excuse-moi, Albert Algou. Mais beaucoup moins de rédactionnel et que de la bande dessinée de très haute tenue, assez humoristique et vraiment rigolote. Enfin, moi je trouve que c'est assez sympa et bien fait. Ah ouais, tiens, la quatrième de couve, on peut en parler. Il s'agit du concours co-organisé entre la chaîne de télé Arte et Glénat pour trouver donc le nouveau talent européen. On les a rencontrés en janvier dernier, précédent lauréat pour la bande dessinée Essence.
Une interview polonaise.
Ouais. Sous-titré en allemand par les copains d'Arte, et je l'ai toujours pas diffusé d'ailleurs. Donc vous pouvez toujours souscrire, c'est-à-dire il faut faire une histoire complète, je crois, en 16 pages, et l'envoyer à Glénat, ou sinon participer au jury.
Alors, et aussi, et pour jouer, c'est très simple, il vous suffit de lire la question suivante, et peut-être que tu as la réponse, Xavier.
Vas-y, toujours.
Dans quelle revue japonaise le manga Say Hello to Blackjack a-t-il été lancé?
Alors là, tu me poses une colle.
Non, c'est pas vrai.
Et si. Ah, ça arrive.
Ça arrive.
Et comme quoi, c'est pas si évident que ça. Il faut montrer quand même qu'on s'y connaisse un minimum en bande dessinée. Et après, je pense que c'est plutôt sympa, bonnard, en tout cas, après tout, de voir. Alors, le problème, c'est que c'est présenté dans une multitude de langues, puisque je crois que les sélections se font en présentant les planches soit en français, soit en anglais, soit en allemand. Je crois qu'il y en a qui vont se rigoler à la sélection. Mmh. Et c'est vrai que Essence, quand même, c'était vraiment...
Oui, c'était surprenant et c'était assez fort graphiquement, j'avais trouvé.
Enfin, c'était un bel hommage à Marlowe et tout ça, à la littérature, bien foutu et très rigolo, assez nonsense. Mais le nonsense, on en parle dans une semaine. Thomas.
Eh ben, on va passer à la revue de presse cinéma, oui. Avec le magazine Première, donc c'est le numéro 342, le numéro de d'août, avec King Kong en couverture.
King Kong. Ouh, voilà. Ah ouais.
Ah tiens, tiens, ah, tiens, tu ah,
bah, voilà, hop, je échange de bouquins en voilà. Live. Bah tiens, prends le pastèque.
Ah, bah, tiens, ouais. Et donc en couverture, ah, ouais. Ouais, donc les photos de King Kong et les journalistes sont allés rencontrer Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens en Nouvelle-Zélande. Alors,
si c'est du dessin ou de la 3D ça?
Ça doit être la 3D, je pense.
Ouais, c'est dommage, c'est pas du réel. Hein.
Mmh. Ah, et alors les noms que je vous ai cités, si vous avez passé l'année à regarder les bonus du Seigneur des Anneaux, vous savez que c'est le trio qui a écrit le scénario donc de la trilogie épique d'après Tolkien.
Ah ouais.
Alors ça peut augurer de beaucoup de bonnes choses concernant King Kong. Voilà, et puis il y a aussi un truc intéressant en première, c'est un dialogue par téléphone entre George Romero, Edgar Wright et Simon Pegg, les auteurs de Shaun of the Dead. La...
par téléphone, qu'est-ce qui leur a pris
Ah bah ils étaient pas, il n'était pas possible de les réunir dans un même local, donc voilà, ils ont fait ça par téléphone. Donc... Et ensuite on a le notre magazine qui est Score le numéro de juillet août avec une couverture c'est Brad Pitt à l'occasion de la sortie de Mr and Mrs Smith de
Alors Brad Pitt pour vous dire c'est quand on le met en couverture c'est comme mettre une fille à poil pour les garçons c'est pour les filles
Ah ben
c'est
attends, idéal. Tu vas pas si bien dire qu'est-ce qu'il y a dans le fond Deux filles à poil. Deux filles à poil, voilà.
Ce gag n'était absolument pas prévu. Oui, parce qu'il faut qu'on vous explique quand même que la plupart des sketchs qu'on fait à l'antenne, on a un script. Voilà, on a un conducteur. Où la plupart des trucs sont écrits et on est professionnel. Je vous les montre à la caméra. Voilà. Hein? Non?
Ah mince. On fait de la radio, Xavier.
Oui, mais je vais pas montrer quand même tous nos petits secrets. Hein. Il y a une émission à tenir.
Oui. Et donc dans Score, donc c'est le moyen de faire un petit dossier sur Mr. and Mrs. Smith avec donc un portrait de Brad Pitt, une interview du réalisateur Doug Liman, etc. avec des petites photos bien sympatoches avec Angelina Jolie aussi. On a une interview de Kitano à l'occasion de la sortie de Blood and Bones.
Donc son nouveau sort
le film ouais japonais fait par un coréen qui où Kitano campe une belle ordure en tout cas et il y a un truc qui m'a fait rigoler aussi c'était une interview sans concession de Michael Bay qui a fait The Island et pour une fois il est allé faire un film produit par Spielberg et alors le journaliste lui demande mais vous avez pas peur de faire des infidélités à Jerry Bruckheimer qui rappelons-le est le producteur de toutes les blockbusters qui assomme le spectateur par le boom par les explosions
au petit au grand
pyrotechnique
écran.
Voilà.
Enfin, en petit, il en met beaucoup moins.
Et donc voilà, et donc il y a Michael Bay et il répond ah ouais, mais de toute façon, ce film, j'aurais pu le faire qu'ailleurs que chez Michael, que chez Jerry Bruckheimer parce que lui, c'est trop psychologique pour lui. Lui, les films centrés sur les personnages, il aime pas trop. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce numéro de Score, ce numéro vaut pour ses suppléments. Alors déjà, on a un supplément, c'est un petit livret sur Virgil, un film français de Mabrouk El Mechri qui va bientôt sortir, je crois que c'est à la rentrée, avec Jalil Esper, Léa Drucker, Jean-Pierre Cassel et Philippe Nahon, un film de boxe.
Cassel, Drucker, d'accord, ok.
Voilà. qui est un film qui a l'air assez... Qui a l'air de bétonner, ouais, vous aimez les chiens. Et un autre supplément consacré à Land of the Dead, le territoire des morts de George Romero.
Ah, alors ça, je l'attends avec impatience parce que Thomas m'a promis quand même un spécial film de genre. Donc normalement cette émission quand même hein, ça c'est vraiment le gros morceau qu'on a prévu cette semaine, c'est un spécial zombie pour la sortie donc de ce film, Le Territoire des Morts, le dernier film de George Romero.
Oui mais non.
Comment ça non?
Bah il fait ça uniquement pour le fric et puis de toute façon Libé, Le Monde et plein de magazines ont fait leur couverture dessus donc ça va, il a assez de pubs comme ça.
Mais attends, c'est lui le créateur du genre quoi. Il a fait des morts, de la mort vivante, du gore. Il est le seul à faire les zombies tellement vivants qu'ils en sont flippants quoi.
Ah ouais? Attends un peu.
Mais attends, mais je rêve là où il se barre. Thomas! Il s'est barré, tiens. Thomas?
Ouais, bah regarde ça! Regarde!
Quoi? Attends, non, mais là, si tu veux pas. Attends, mais qu'est-ce que tu fais avec ça là? Attends, redis ce que tu viens de dire, j'ai pas compris. Attends, qu'est-ce que tu disais là? Qu'est-ce que j'ai pas compris là?
Bah regarde, ma tenue négligée! Je me déplace en meute aussi! Ça, c'est du zombie!
Tu veux dire donc regard vide, pupille dilatée, peau luisante et blanchâtre, odeur pestilentielle, dos voûté, braque ballant, démarche maladroite, sont inarticulés. Ouais, ouais. Tu dis, tu t'appelles ça un zombie?
Bah ouais.
Non, non, ça c'est un tougher. On est dans un technival là. Et maintenant, vous me rangez ce fusil à pompe dans le dos là. On ne joue pas Silent Hill, c'est pas un vrai zombie. C'est juste un public de hardtech, voilà.
Ah ouais? Et c'est quoi un tougher sinon un mort vivant, vivant?
Bon, soit. Alors tu me ramènes le monsieur là, hein. Et ouais. Puis je pense que on va voir ailleurs si j'y suis, hein. Je sais pas. Enfin, on va dire par hasard, je sais pas, tiens, film de genre. Tu peux me faire un spécial Godzilla, j'espère, tout à l'heure.
Non, pas un spécial japonais. Godzilla, mais un spécial japonais fou, oui.
D'accord, ok. Un monstre sacré, c'est ça?
Ouais, ouais, ouais.
D'accord, ok. Bon, bah, je crois qu'on a refini cette revue de presse, bien débile, comme d'hab. Une fois, je vais faire une chronique un peu spéciale, point de vue, je veux dire, artistique, expression, etc. Non, non, je vais en fait parler de mon site perso. Voilà, c'est une marotte que j'entretiens depuis 97. Voilà, dessus, il y a ma photo, mon CV, les liens vers des amis, chronique de mes émissions. Ouais, maintenant, on peut même les télécharger, mes émissions, dessus. Et c'était dur de maintenir tout ça, donc j'avais créé mon propre système de mise en page. CMS, comme on dit, pour faire style. Ouais, c'était lourd, ça marchait pas toujours, c'est très 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 contraignant. Et puis, un jour, une mode est apparue. Celle de parler de soi, de son point de vue, d'être soit un égocentrique absolument incurable, soit un journaliste à son échelle sur le net. Comme les radios associatives, finalement. C'est le fameux phénomène des weblogs, les journaux perso sur le net. Les blogs sont devenus si populaires qu'ils ont créé une industrie, c'est-à-dire en fait que de grands groupes s'occupent de tout pour vous, ils vous mettent la place, ils vous font l'infrastructure, le look, etc. Vous n'avez plus qu'à fournir gratos vos idées, vos textes, et eux, elles leur apporteront via la pub. Mais voilà, en fait, moi, ben, j'avais pas envie de créer un Skyblog ou autre MSN Spaces. J'ai voulu avoir une solution indépendante, autonome, qui me laisse libre de gérer mon serveur comme je l'entends, le modifier n'importe comment, et où je ne passe pas entre les mains de censeurs. J'ai mis 5 ans pour créer mon site, à écrire mes propres logiciels. Il y a eu au moins 6 versions différentes qui sont toutes parties à la poubelle, surtout que je voulais correspondre aux règles de l'art, du web, ce que l'on appelle les normes. Et puis un jour, je me suis décidé à utiliser le même outil que mes lectures favorites. Cet outil s'appelle DoctClear. C'est un petit programme sans prétention, plutôt fonctionnel, extensible et bien foutu. C'est écrit par un Français, mais surtout dans l'esprit du logiciel libre, un peu comme Linux, Firefox ou OpenOffice. Un logiciel très technique qui demande une bonne maîtrise de l'outil informatique. Mais l'effet de bord, c'est que les gens qui se l'installent, eh ben, ils en bavent, savent se tenir, ils sont motivés pour l'utiliser, ils parlent un vrai français. Je veux dire, c'est pas de la kikolol attitude. Ils écrivent dans un texte que tout le monde peut comprendre, n'importe qui, du moins si on comprend le français. C'est vrai que écrire dans SMS novlangue, ça vous passe quand vous n'arrivez plus à vous relire 2 ans après. Ça oblige à soigner son écriture, à créer son style, à bricoler en PHP, CSS, JavaScript, HTTPS, huile de coude, à en donner toujours plus. Et à partager en plus de ses pensées, ben justement les améliorations à DotClear, à la communauté du logiciel libre. Aujourd'hui, c'est 2 ans de DotClear. Alors je tiens à remercier son créateur, Olivier Meunier, et encore bravo. Et Olivier Meunier, eh bien, figurez-vous qu'il a son blog, bien sûr, mais aussi c'est un photographe plutôt de talent, donc sur son site neocraft.net, eh bien, vous en apprendrez plus. Il a aussi géré plusieurs grands sites, et maintenant il gère le site de Mozilla Europe, bref, c'est pas n'importe qui. Et la prochaine révolution après les blogs, eh bien, ce sera les baladeurs numériques, les baladeurs MP3, même qu'on peut désormais écouter ses émissions favorites comme on veut. Vous abonnez à vos émissions, blog audio, label libre préféré, et à chaque nouveauté, un logiciel l'installe automatiquement dans votre baladeur, comme ça vous l'écoutez. Cela s'appelle le podcast, un nom qui vient d'un célèbre engin blanc au goût pomme, et dont le créateur vient d'intégrer le concept. Donc si vous avez iTunes 4.9, Eh ben, rejoignez les 60 auditeurs qui écoutent Supplément Week-end en différé. Donc, je suis obligé de donner l'adresse de mon site puisque le site de la radio ne pointe pas dessus. C'est dascritch.net. dascritch.net. Bon, ouais, vous vous embêtez pas. Allez dans Google, tapez, entre guillemets, Supplément Week-end et ensuite MP3 éphémère. Et là, eh ben, vous allez tomber sur comment on s'inscrit à un podcast. Et puis voilà.
Et.
Ouais.
Je peux ajouter un truc?
Attends, oui, vas-y.
Après la coupure musicale, si tu veux.
Bah, d'accord. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jungle. Rewind! Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy, not the city of sin, none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy, not the city of sin, none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. I got a naughty, naughty style and a naughty, naughty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true niggas know that the peas come through and never cease. We never die. I know we never deceased. No. We multiply like we math Matisse. And then drop bombs like we in the Middle East. The bomb bomber, the bass boom drummer. Now y'all know who we are. Y'all know. We the stars, steady rocking all of y'all's boulevards. And looking hard without bodyguards. I do what I can. You. L I am. And still I stand with still mic in hand. So come on, mama. Dance to the drummer. Hey, mama. This that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting out the jamma. So shake your bum, mama. Come on now, mama. This that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting out the jamma. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quits. No need to carry 9mm clips. Don't wanna squeeze trigger, just wanna squeeze tits. Cause we the showstoppers and the chief rockers. Number one chief rockers. Now y'all know who we are. Y'all know. We the stars steady rocking all of y'all's boulevard. How we rocking it, girl? With our bodyguard. She be funky from the cool BET. Come on, take heed as we take the lead. So come on, papa, dance to the drummer. Hey, mama, this that shit that make you move, mama. Yeah. Get on the floor and move your booty, mama. Whoa. We the blast masters blasting at the drummer. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy, not the city of sin, none. Hey, shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. But the race is not for the swift, but for who can endure it. And Tipperary and the Black Eyed Peas will be there. Till affinity, till affinity, till affinity, till affinity, till affinity. Black it out. Enough of them a shock, enough of them a shock, enough of them a sting. Every time you see them appear bling bling. Oh what a thing, pure muggling, grinding and whining. And the mother them a move in a perfect timing. Them a dance and dance to the dancehall rhythm. And the way they tune nice it finger licking. Like rice and peas and chicken stuffing. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the blast masters blasting at the jamma. So shake your bum, mama. Come on now, mama. This that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the blast masters blasting at the jamma. Radio éphémère, 12h23 minutes sur le supplément week-end. Thomas, oui, je t'avais interrompu.
C'est pas grave.
Vas-y.
Allez, je vais. Ouais, un petit ajout par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu commençais à parler de toi, faire le beau et tout, mais t'as pas précisé que t'as pris un an de plus il y a pas longtemps.
Et j'ai quoi ?
T'as pris un an de plus il y a pas longtemps, non ? Il me semble. Allez, on va faire une petite coupure. C'est pour toi.
Allez, bon anniversaire.
Bon bah c'est très sympa, mais alors là, celle-là. Celle-là, moi je.
Oui, quoi ?
Non. Alors, en plus, tu portes ton cadeau sur toi, donc c'est normal. Faut dire que c'était un casque, mais bon. Et tu sais quand même qu'on est bondé, hein. Et puis, non. Ah non, du sport, il est pas là. Waouh ! Ah ouais ! D'accord, alors, pour vous dire, il vient de m'offrir un PDA. Voilà. Un PDA que j'essayais de trouver en bibliothèque depuis un bail. C'est pas pour rien que j'essaie de le trouver. C'est parce que. Enfin bon, ouais. Bah attends, je peux l'allumer ?
Oui.
On va essayer une définition au hasard, vous allez comprendre. Est-ce que tu peux me dire bande-annonce ?
Bande-annonce.
Les bandes-annonces sont faites pour vous donner une idée du film présenté dans un laps de temps très court. En général, elles commencent par présenter un personnage principal. Très vite, ce personnage se trouve confronté à une situation si incroyable...
Arthur ! C'est quoi tous ces machins-là ?
...qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire un film à son sujet.
Attention, peuple de la Terre, ils ont prévu de détruire votre planète.
Accroche-toi, on s'arrache d'ici en stop !
Souvent, ces plans-là sont précédés de la phrase « Un monde dans lequel... » Mais pas toujours. La bande-annonce est généralement commentée par une voix grave. La voix d'un homme de 2,15 m qui fume 3 paquets de cigarettes par jour depuis sa plus tendre enfance.
Eh ben, Bruce.
L'objectif étant de réaliser une œuvre publicitaire à la fois originale et palpitante.
Quel panard !
Elle doit être intelligente et provocatrice, autrement dit, montrer tout un tas de choses qui explosent. Entrecoupée d'apparitions de jolies filles en bikini.
À moi, ça ne me fait absolument aucun effet.
En général, la bande-annonce nous montre aussi des méchants sans foi ni loi, des créatures hideuses, des dauphins, de la violence physique. Et bien entendu, la promesse d'un amour véritable.
Ah, mon Dieu.
Et pour finir, il y a le montage final. Souvent rythmé par une musique rock.
Allez-y, quoi, mais allez !
Tout simplement conçu pour vous exploser les quelques neurones qu'il vous reste au fond du bulbe. Tout ceci pour finalement vous révéler le titre du film de la manière suivante.
H2G2, le guide du voyageur galactique.
Suivi de la date de sortie,
mercredi
qui permet
prochain.
Aux spectateurs de s'organiser en fonction plusieurs mois à l'avance.
Mais la spéciale, on fait la spéciale la semaine prochaine. C'est pas aujourd'hui.
Non, c'est pas aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis vraiment. C'est un Marvin miniature qui m'a offert. Je connais. J'adore en plus. Marvin, c'est le fameux androïde paranoïde.
Voilà, qui est tout rond et tout mignon.
Voilà, et qui a donné son nom à un album. Mais tout ça, on va en parler parce qu'on a des choses à dire. D'ailleurs, je vais essayer de me faire d'ici la semaine prochaine le bouquin du traducteur Michel Paget, Les escargots se cachent pour mourir. Mais parce que le bouquin était complètement modifié dans la version française par un très très bon auteur. Donc en fait, la version française a la trame générale qui correspond, mais c'est d'autres types d'humour que l'on va y retrouver. Il faut savoir que le film aussi est coproduit par Unseen Creatures, donc c'est pas de la 3D. Et à toi, je te passe, pour la semaine prochaine, la bio de Douglas Adams, Pas de panique, par Neil Gaiman. Et oui, s'il vous plaît, le célèbre scénariste a fait une biographie
de l'auteur.
De l'auteur, et voilà. Et c'était absolument pas prévu ce sketch, enfin pas dans 7 ans. En tout cas, je te remercie beaucoup, Thomas.
Mais de rien.
C'est qui qu'il faudra que je remercie tout à l'heure aussi, Sabrina ?
Non, moi tout seul.
Ah, c'est vraiment ça, c'est un chouette cadeau. Voilà, et on me fait signe derrière. Ouais, il faut que je passe la pub, d'accord. Les midi 28 sur Radio FMR, donc à midi 30, on doit passer la pub. Et on fait avec un peu d'avance. Donc, on vous a donné le programme de la semaine prochaine. Ce qui suit tout de suite, c'est qu'on va parler de Dune. On va parler aussi de Michael Moorcock. Qu'est-ce que l'on a encore ?
On a du Tezuka, du japonais fou et plein de bonnes autres choses.
Et du japonais aussi romantique, hein. Il n'y a pas que du japonais fou. Donc, ça, c'est dans Supplément Week-end. Et en attendant, c'est Radio FMR. Et comme j'enregistre sur le mini disque jingle à cause d'un problème technique, on vient de mettre en place la publicité alternative. Donc voilà, vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz sur Toulouse et www.radio-fmr.net pour le service mondial.
Je suis vieux et je m'ennuie. Quick, quick, et la vie va plus vite. Quick, quick, ça oui, c'est tonique. Quick, quick, l'aliment pigeon que les seniors préfèrent. Pourquoi pas vous ? Seulement 4,11€ la boîte. Alors vous aussi, soyez quick, quick.
C'est la main du destin, c'est pour mon anniversaire, c'est ça. Oui. Non, mais c'est vraiment au hasard.
Téléphone.
D'accord. Ok, comme ça. Radio éphémère, bonjour. Bah tu parles. Allez. Bon, j'avais dit que j'allais parler donc de Dune. Dune, pourquoi ? Parce que ben il y a donc le DVD
qui est sorti.
Oui, bon. On va pas en parler pendant trois quarts d'heure du DVD parce que.
Rien à dire d'ailleurs. Hein. Non, c'est une collection, c'est un collector prestige de 3 DVD qui est une arnaque absolue puisque il y a une version une version longue qui a absolument pas été plus moins désavouée par Lynch que celle qu'on connaît.
Surtout que c'était une version télé.
Voilà. Et la seule interview qu'il y a de Lynch, c'est à l'époque de la sortie du film. Ça aurait été intéressant justement d'avoir son avis sur le film aujourd'hui. Mais bon, voilà.
Enfin bon. Tout ça pour vous dire que en plus ils ont sorti pour faire la promo du DVD, ils ont passé le film sur CinéFX et sur Arte. Donc on passe le film pour annoncer la sortie du DVD, cherchez les voir.
Bah,
Gratos hein. Bon. Enfin pas CinéFX et sur abonnement, mais bon. À propos du roman originel de Frank Herbert, figurez-vous que depuis 2000, Robert Laffont publie dans sa collection Ailleurs et Demain les deux trilogies avant Dune. Dune, la Genèse. En soi, ce n'est pas une mauvaise idée, à part les couvertures. Entre nous, elles sont particulièrement hideuses.
Bah
qui dépareilleront avec les superbes couvertures en alu des années 70. Mais bon, passons. L'histoire date donc de la mort de Frank Herbert, de notes posthumes trouvées dans un grenier. Des notes qui sur des nouvelles inachevées dans son univers fétiche. Des notes qui mènent à un compte bancaire où étaient religieusement conservées de vieilles disquettes. Dans un format qui date de près de 35 ans, des disquettes souples de 8 pouces. Alors vous connaissez peut-être la 3 pouces et demi qui n'existe pratiquement plus. La 5 1/4 noire, bah sachez que la 8 pouces, bah ça, la fabrication s'est arrêtée en 85. Donc franchement ça m'étonne un peu parce que c'est un format qui était réservé aux barbones, vous savez les mini ordinateurs qui faisaient la taille d'une camionnette. Bon, ni une ni deux, appel du gain aidant, l'éditeur américain convainc le fils Brian de co-signer des préquels avec un auteur de SF bien rodé pour garantir le style, Kevin Anderson. Mais si, vous le connaissez pour des romans comme Star Wars, Sky Captain and the World of Tomorrow, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, oui. En fait, Kevin Anderson, c'est un tâcheron qui fait de la novélisation de films à succès. Voilà, bref. Bon, ça évite de trop se planter en général. Et en plus, on fait coup double. Si on était dans l'industrie du comics, on parlerait de crossover. Comme on est dans la littérature de genre américaine, éditeur américain, ben, il paye au kilo de papier. C'est quand même un pavasse de 630 pages pour ouais ce sixième tome. La première de ces deux trilogies, avant Dune, s'attarde sur l'histoire des trois maisons protagonistes, les Atrides, les Harkonnens et les Corino, respectivement les gentils, les méchants et l'empereur. La deuxième trilogie se passe largement avant, alors que l'humanité se bat contre les machines pensantes impitoyables qu'elle a elle-même programmées. Qui a dit Terminator là ? Enfin, bon. D'ailleurs, l'histoire d'Erasme, un robot indépendant de l'esprit informatique universel Omnius, fait bizarrement penser à un cauchemar d'Isaac Asimov. Bon. Bref, dans cette trilogie, vous apprendrez comment le djihad luthérien a réduit en cendres des centaines de planètes, dont la Terre. Allons-y, le nucléaire, tu en veux, tu en voilà. Comment sont nées les sœurs Bene Gesserit, comment les ordres des docteurs, les maîtres d'armes, les mantas et tous les autres devinrent indispensables à la ligue des nobles qui seront en formation, comment fut découvert les propriétés du mélange, la bonne drogue,
et
comment le voyage dans l'espace fut accéléré. Mais surtout, d'où vient l'engeance entre les Harkonnens et les Atreides, quelle est donc cette soi-disant trahison mutuelle qui leur vaudra des dizaines de décennies de siècles carrément d'une haine qui déchirera la galaxie. Mais si l'héritier de Frank Herbert est secondé d'un auteur de SF qui sait y faire, malheureusement, les deux n'ont pas la connaissance encyclopédique du créateur de Dune. Car Frank Herbert était un biologiste, ce qui lui donne de bonnes bases pour construire sa planète, donc Arrakis, un écosystème plus que crédible. Par exemple, savez-vous qu'outre des plongées sous-marines, Frank Herbert a donné des cours de survie aux astronautes du programme Apollo.
Je ne savais pas.
C'est ce qui m'avait marqué, l'immense section pour décrire la planète à la fin du premier tome de Dune, et celle sur la réécriture de l'histoire géopolitique lors du règne de plusieurs siècles de l'empereur dieu de Dune. Ça, c'est le quatrième tome.
Ah oui, c'est le tome où on comprend rien.
Et c'est ça le problème, voilà. Enfin bon. Et l'intrigue politique se retrouve, mais hélas, elle n'est pas aussi intensive que dans les romans originaux. Et les descriptions de l'univers sont plutôt sommaires, je veux dire, par rapport à la richesse en fait des romans originels. C'est un peu dommage, mais les informations qui ont permis de broder les préquels valent à elles seules leur pesant d'épices. Enfin presque, parce que le kilo de mélange, hein, entre nous, est en train de flamber, comme le pétrole.
Et, mais dis-moi, c'est la mode en ce moment de faire des trilogies qui se passent avant?
Oui, oui, je sais pas à quoi tu penses, vraiment par hasard. Non, tout ça pour parler donc du triple DVD de Dune, donc on a parlé, et dedans il y fait référence en fait à la première adaptation cinématographique qui a voulu être montée et qui s'est plantée lamentablement la gueule, celle qui a été montée par un réalisateur qui s'appelle Alejandro Jodorowsky, que l'on connaît pour son tarot philosophique, mais aussi pour ses bandes dessinées comme L'Incal, et qu'il avait produit, qui a été assisté de son producteur Michel Sédoux, qui a réalisé... qui avait produit, excusez-moi, financé La Montagne Sacrée, qui était quand même un succès à l'époque. Bref, il fallait une équipe totalement révolutionnaire dans la SF. On a créé, on a utilisé une technique, qui est la technique du storyboard. Je crois que le seul qui s'en était servi jusque-là, c'était Alfred Hitchcock. Et
C'était en quelle année ?
C'était dans les années, sa période en fait hollywoodienne. Et, le film.
Oui, le film, pardon. Oui.
1970.
Ah, ouais.
Et
ah,
pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Et oui, à l'époque, faire des dessins, ça coûtait cher.
En 70,
quand même.
Les storyboards, c'était pas l'âge d'or encore. Hein.
Surtout que, bon, il y avait du bon monde pour le faire. Jean Giraud, alias Moebius, Christopher Ross, qui était un célèbre illustrateur anglais de couverture de science-fiction. Il y avait H.G. Geiger, l'illustrateur helvétique spécialisé des ambiances morbides. Mais bon, le film capotera pour diverses raisons, et puis une partie de l'équipe se retrouvera plus tard sur Alien. On retrouvera la même équipe de design. D'ailleurs, c'est ça qui est amusant. Tandis qu'Hollywood, il pillera pas mal d'idées pour Star Wars. Il faut savoir que dans le storyboard, on y lit le premier film Star Wars. C'est... Ah ouais. Ouais, tout à fait. Bon, pour en savoir plus, il y a un numéro spécial de Metal Hurlant. Alors là, bonne chance pour le trouver parce qu'il date de fin années 80. C'est le supplément du numéro 107. Et pour les curieux, le casting. Brontes, le fils de Jodorowsky, pour jouer le rôle de Paul Atreides. Dali, oui, le peintre, s'il vous plaît.
Salvador.
Pour l'empereur Padichan, il voulait être l'acteur le mieux payé au monde et faire ce qu'il voulait. Donc ça aurait été le casse-tête impensable. Il parlait de tourner avec 18 caméras, ce qui à l'époque était un truc monstrueux.
Il aurait exigé d'avoir une manie, c'est pisser dans un bocal.
Non, plus exactement, il voulait faire le trône de l'empereur et il trouvait d'un très mauvais goût de mélanger le pipi et le caca. Alors donc ils ont fait des moulures de son lit avec des dauphins, tu vois, c'est un truc impensable. Amanda Lear, qui était une très belle fille à l'époque, pour le rôle de Irulan. C'était l'égérie de Dali, et au début des années 70, elle était plutôt mignonne et elle parlait déjà quand même 5 langues. Donc elle aurait fait ses doublages pour les principales langues, après tout pourquoi pas. Et la musique, Pink Floyd, s'il vous plaît. Voilà, ça fait rêver. Il faut savoir que le storyboard de Moebius est toujours la propriété de Camera One, que Jean-Jérôme a dit que, en fait, il aurait aimé lui aussi justement récupérer l'autorisation de publier ou qu'il le fasse eux. Mais apparemment, je sais pas. Peut-être qu'ils espèrent toujours le faire. Enfin bon, après tout, pourquoi pas.
Et un petit mot peut-être sur les téléfilms. Est-ce que tu les as vus?
Les téléfilms qui ont été diffusés sur Canal et qui sont en loc.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'ils étaient pas trop mal.
Mais
un peu flashy quand même dans les yeux.
Ouais.
On sent qu'on a un peu abusé de la palette graphique. Hein. Non, bon d'accord. Si. Ok.
Un petit peu, on va dire.
On va parler de Michael Morkug, Elric. Je vais y arriver. Il s'agit d'une adaptation cette fois-ci en bande dessinée, là aussi d'un crossover, mais cette fois-ci du vivant de l'auteur. Michael Morkug vit toujours, et non, il n'est pas mort. Et les dessins sont signés Simonon et Olif, donc pour Michael Morkug's Elric. Le premier tome sur deux ou trois, je ne sais pas lequel, vient de sortir chez Soleil. C'est du dessin à la Casa. D'ailleurs, c'est pas trop mal hein, de ce côté-là. C'est assez coloré, par contre, manière comics. On apprécie, on n'apprécie pas. Sur la jeunesse de Elric, comment il a fait en fait sa formation dans les rêves, c'est-à-dire comment dire. l'histoire, ça se passe, eh ben, l'empereur Sadric n'est pas encore mort. Il doute encore de qui va prendre sa succession sur le trône 10 000 fois millénaire de l'empire de Melniboné, qui vit un bonheur à peu près correct, je vais dire, jusqu'ici. Il a le choix. Irkun, un neveu dangereusement ambitieux, ou Elric, fils maudit, qui est la cause de la mort de sa femme. Donc il a toute la raison quand même de considérer qu'il est maudit, et en plus tara-génétiquement, puisque voilà, il est albinos. Bah, ça pue des culs. Et que voulez-vous, hein, ça s'appelle taré congénitalement, je sais pas comment le dire.
Juste le taxer. L'album.
Voilà, pas plus de 2 minutes, ça suffit, hein, pour me se le faire prêter. Et pourtant, je l'ai mal vendu encore. Elric, justement, découvre durant ses rêves de plusieurs mois que l'on peut s'associer avec le chaos sans faire le mal, et que la puissance des dragons est très limitée, mais terrifiante, utilisée à bon escient. Mais pourquoi avoir fait de cette préquelle, de son personnage fétiche en comics? Morcock est connu pour avoir toujours eu des problèmes d'argent. Il faut dire qu'il a eu du mal à se faire connaître du public. SF, qui était plus intéressé par les séries positives, genre Star Trek, vous voyez à la télé, qui est d'un univers particulièrement noir. Pardon, son multi-univers, puisqu'il a, par exemple, fait... outre Elric, il a fait Hawkmoon et plein d'autres personnages, qui sont toujours dans cette histoire de lutte entre la loi et le chaos. La légende veut qu'un jour, il a acheté aux enchères l'un des premiers numéros d'un Stupendous, l'un de ces fameux pulps où les auteurs comme Asimov et Huxley écrivaient. Silence mortifère dans la salle aux enchères, parce que c'est l'un des premiers numéros, c'est un numéro historique, et il est racheté par un auteur de science-fiction très connu, mais que tout le monde s'est endetté jusqu'au cou. Celui-ci va au présentoir, passe devant donc le commissaire priseur, prend la précieuse relique et la déchire en petits morceaux. Voilà ce que je fais de cette science-fiction-là. C'était un punk avant l'heure. Alors, chercher du fric en faisant la bande dessinée, c'est pareil au même qu'écrire des paroles de rock. Il a même écrit une parole de chanson pour le film Metal Hurlant. Comme quoi, hein. Il est aussi destructeur que ses héros. Par exemple, Cinefix a passé récemment un film trop peu connu, inspiré d'une de ses nouvelles, Les Décimales du Futur, un film de 1971 où ses personnages sont des punks 7 ans avant l'heure, c'est-à-dire des bourgeois décadents qui sont top de la connaissance intellectuelle, qui sont riches à foison, et qui en ont rien à foutre parce que la Terre, de toute façon, on va la détruire, on ne sait pas comment, rien à caguer, l'homme arrive à sa fin. Faut dire que l'œuvre de Morcock révèle, au-delà de la lutte morale entre le bien et le mal, à l'échelle de l'homme, sur la lutte entre les dieux, entre la loi et le chaos, avec de drôles d'alignements. Par exemple, Sarkozy fait le bien en servant la loi. George W. Bush fait le mal en servant la loi. Ben Laden fait le mal en servant...
Je sais pas.
Le chaos ?
Ouais.
La loi. Loi coranique. Eh oui, forcément. Enfin bon, je vais me faire flinguer moi à vue. Enfin bon, que Morcock paye ses arriérés d'impôts en dessinant la jeunesse d'Olric de Melniboné en bande dessinée, on va pas lui en vouloir, surtout que c'est pas trop mal fait. Donc Michael Morcock, Elric, le premier tome donc vient de sortir chez Soleil, c'est dessiné par Simonov et Olif et donc scénarisé par Morcock. Et puis voilà. Petite exclue.
touch. Oh, why does it hurt so much? I've never known such loneliness. The world is right, but I'm so alone this night. I cannot find a light to guide me. So I called, I'm by your side. But
Journey Hand. Il s'agit en fait de la reprise d'un des thèmes de Final Fantasy X, le jeu vidéo, disponible sur Overclocked Remix, ocremix.org, par Grey Lightning et Pixie Tricks, et la voix c'est Sapphire.
Très joli.
C'était le remix de la semaine, et franchement, waouh. Vous écoutez Radio Éphémère, il est midi 47, c'est le supplément week-end. Et puis, ben voilà, c'était juste... pour ben justement pour passer au Japon au truc comment dire je vais dire à la partie je vais dire un peu plus soft je vais dire
plus romantique
ouais
rose,
ouais voilà ben oui quelque chose de plus doux plus tranquille
youpi.
Hein, non bon d'accord ok hein mais
si, parce que du sport n'est pas là donc on se dit qu'il manquait un petit soupçon de romantisme. Ouais, pour ceux qui nous rejoignent. Et ben,
Voilà, bon. Donc, il est question d'une manga. Une manga d'une dessinatrice s'appelle Ako Shimaki. Sous un rayon de lune, donc les tomes 1 et 2 viennent de sortir dans la collection Shoujo chez J'ai lu. Et c'est l'histoire de Atsuki, qui est un jeune lycéen, plutôt beau garçon, qui a un énorme problème relationnel. Il ne peut aborder une fille sans trembler comme une feuille. En plus, il a plutôt tendance à
sécher...
Il a plutôt tendance à sécher régulièrement les cours qui lui prennent la tête. Sauf que même s'il n'est pas allé une seule fois en cours, Atsuki, sans connaître par cœur le Genchi Monogatari, un épais bouquin au programme sur lequel il va être interrogé à la fin de l'année. Même qu'il semble habité par l'un des personnages principaux de cette somme, le prince Ikalo. Et que la jolie Shu lui fait un drôle d'effet, comme si elle aussi, elle était une réincarnation. Du bouquin, celle de la princesse Murasaki. La fameuse rédactrice du dit bouquin du journal. Est-ce que ce serait là l'occasion de conclure une romance commencée près d'un millénaire auparavant dans la cour impériale du Japon médiéval ? Et alors là, c'est très con, parce que le Genji Monogatari est un bouquin qui existe réellement, le dit du Genji. C'est un roman dont il est Le roman dont il est question est en fait est un classique de la littérature nippone qui est quasi obligatoire au programme des lycéens japonais. C'est un énorme pavé qui est écrit au 11e siècle. Je crois que la traduction française tient en 1800 pages. Ça vous dit, oui, même pour moi ça fait beaucoup hein, quand même. J'ose même pas y penser. Il est connu surtout pour sa trame non linéaire, sa foison de personnages secondaires. Et d'ailleurs, l'une des difficultés justement de ce roman, c'est que les personnages, on les nomme en fait par leur position. Et comme ils changent de position sociale au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, puisque
ils changent donc de nom.
Ils changent donc de nom. Donc inutile de vous dire, c'est bien à noter sur le côté, parce que sinon vous êtes paumés. C'est une horreur ce bouquin. Donc le Genji, c'est le fils de l'empereur qui ne peut prétendre au trône. Il est donc à l'origine Gen d'une nouvelle branche Ji impériale. Voilà. Donc le dit du Genji se présente comme un récit véridique, le Monogatari, qui est en fait le journal personnel d'une des femmes, donc la fameuse princesse Murasaki. Le prince Hikaru est un joli garçon et dame Fujiboro, sa belle-mère qu'il a essayé de draguer, alors qu'en même temps il essaie d'être marié avec vous arrivez à suivre avec d'accord, bon, alors dans ce cas-là on va passer au
spoiler.
Bon, excusez-moi. Changer une vie derrière. Je vais vous dire une chose qui est assez importante, c'est que le prince Hiraku, c'est un queutard, c'est un chou à lapin, qui à peine se fait-il la femme de son père, qui change d'amoureuse, qui donc passe à Murasaki, puis ensuite il en change. Bref, ça c'est pas l'amour courtois de nos longitudes, manière chrétien de Troyes. On en est à 10 000 lieues. Enfin bref, Sous un rayon de lune, tome 1 et 2, c'est dans la collection Shoujo chez J'ai lu, c'est dessiné par Ako Shimaki, et si vous voulez donc le dit du Genji, ça se trouve en français, mais c'est un très très gros bouquin, c'est la littérature noble, c'est-à-dire que les nobles y commandaient une copie à des moines qui en bouffaient toute la journée pour le recopier, pour se faire chier à le lire, en les amenant partout, ça les occupait, tu vois. Oh, qu'on regarde les manants en train de curer les douves en bas. Enfin bon.
Hey, je te les rends, hein. Je te taxe pas ceux-là, tiens.
Ah, oh, bon, d'accord, ok. On signale rapidement donc Leiji Matsumoto, le Galaxy Express 999 en est à son 6e tome, c'est dans la collection Kana chez Dargo, donc c'est toujours l'histoire en fait d'un garçon qui quitte la Terre avec une mystérieuse fille pour se faire robotiser et tout. Et je crois qu'on a suffisamment parlé.
Je disais aussi, ça faisait longtemps quand t'avais pas parlé de Matsumoto.
Bon, allez, dis-moi, qu'est-ce que t'as d'autre
Moi j'ai de la manga psychologique et intellectuelle.
Ah, bah, de la mort. Ça te change, tiens, ça.
Hein, ouais, ça fait bizarre de l'entendre par ma bouche, là. Oh, alors, j'enchaîne
Ouais, vas-y.
Allez, Saint Seiya, épisode G.
Non, pas Saint Seiya. Oh.
Si, c'était le seul moyen de le faire passer à l'antenne,
bon,
sinon tu m'aurais censuré.
Vas-y, foutis voilà. Masse derrière, j'en ai rien à foutre.
Donc, le manga Saint Seiya, épisode G, on est au tome 4 et c'est chez Panini Comics. Donc l'histoire, je vais récapituler très rapidement. Après
l'histoire, je te latte, tu me lattes.
Voilà. Après les chevaliers d'argent, après les chevaliers d'or, après les guerriers d'Asgard, après les généraux de mer. Voilà. Après tous ces ennemis qu'ils ont vaillamment combattus au fil d'épisodes harassants. Voici les nouveaux méchants, ce sont les 12 titans à la saute de Chronos, qu'il faudra abattre les uns après les autres dans cette histoire qui est une préquelle à la série classique qu'on connaît tous avec les chevaliers.
Ah, encore une préquelle, tiens. C'est la mode, là. Pas une trilogie, je te rassure.
Non, c'est pas une trilogie, non, c'est beaucoup plus. Et c'est une préquelle donc à la série classique qu'on connaît avec les héros qui sont les chevaliers de bronze, partis sauver Athéna à chaque fois qui se fait tout enlever.
J'ai cru que t'allais dire sodomiser parce que venant de grec, pardon, excusez-moi.
Donc, moi j'ai rien entendu. Si vous avez été emballé par le graphisme novateur de Megumo Okada, c'est le dessinateur qui a repris la série de comment il s'appelle, Masamiko Omada, qui faisait des scénarios complètement qui sentaient le réchauffé à chaque fois. Ben vous serez toujours pas déçus, hein, parce que les bons tiens, je te le montre, Xavier. Feuillette-le. Les premières, ouais. Là tu le tiens à l'envers.
Ah, bon. Je visais aussi.
Donc les premières pages sont en couleur. Ça ouais, fait un peu penser à du comics. C'est superbe. Et après les
comics, ouais. Enfin, on mais dirait attends, du clamp sous acide.
Mais t'y es pas aux pages couleurs, c'est au début, je te dis.
Ah merde.
Voilà, les pages couleurs sont au début.
Ouais, alors enfin, on dirait du manga hongkongais.
Ouais,
sur les couleurs.
D'accord. Et les pages en noir et blanc, qu'est-ce que t'en penses? Donc tu dis que c'est du clamp. Merci Xavier. Alors, on va passer.
Oui. Non, mais si tu veux, je peux dire oui, d'accord. Ça ressemble à du Adam Warren, si tu veux, un dessinateur de comics. Mais dans ses dernières BD, c'est un style que j'aime absolument pas.
D'accord. Eh ben, donc, si vous aimez le graphisme depuis le premier tour, vous serez toujours pas déçu parce que c'est du même niveau. Par contre, l'histoire tourne en rond, hein, parce qu'on sent que de façon, il y a
Kurumada. Petit patapon.
Parce qu'il y a Kurumada, il est toujours crédité en tant que scénariste. Il est toujours là, le mec, le vieux débris là. Ouais. Je veux mes systèmes narratifs avec des guerriers surgis nulle part. Avec toujours.
Et alors là, ils attaquent les mille et une factions du Parti Socialiste Français. Non, pardon, désolé. C'était nul.
Voilà, donc conclusion, à lire pour le graphisme et surtout pour voir les Chevaliers d'Or quand même en héros et quand ils sont tous genoux. Donc si vous êtes accro à l'ancienne série, ben c'est un truc où vous pouvez lire quand même. Il y a que 4 tomes pour l'instant. vous pouvez toujours les lire. Ensuite, on va enchaîner avec une autre manga. Donc peut-être que Xavier sera plus intéressé. C'est le tome 2 de la biographie de Osamu Tezuka. Voilà, c'est chez Casterman Écriture. Donc c'est la deuxième partie évidemment de la vie du père de la manga tel qu'on la connaît.
Enfin, c'est au Japon, il est considéré comme le demi-dieu de la manga. Voilà. Donc c'est l'équivalent d'Hergé. Et en France, c'est
Will Eisner aux États-Unis.
Ouais, à peu près. Oui, pour la variété de genres qu'il a abordé, ouais, ça pourrait être ça.
Donc après s'être intéressé dans le premier tome aux passions du maître dans son enfance, qui était il était intéressé par la nature, par les insectes, par les astres, enfin plein de trucs. Voilà, pour nous préparer parce qu'il a fait des mangas. Attends, vachement.
Faut se remettre un peu dans la situation. On est dans l'après-guerre.
Oui, tout à fait. Oui.
Oui, on est dans l'après-guerre.
Un peu le contexte historique, oui.
Voilà, et en même temps, il suit des cours de médecine, voilà.
Parce qu'à l'époque, il sait toujours pas s'il veut être médecin ou auteur de manga, parce que à l'époque, les mangas, ils sont pas très bien reconnus par la critique officielle, et puis c'est vrai qu'ils sont l'objet de quelques censures. Et donc dans ce deuxième tome, on voit ses débuts professionnels. Il monte à Tokyo, il se fait son petit carnet d'adresses et tout. Donc on le suit, artiste débutant, puis artiste reconnu dans le milieu de la manga pour enfants. Donc on voit des mangaka débutants aller le voir chez lui. On reconnaît même un certain Leiji Matsumoto dedans, qui dit ouais, génial, je vous rencontre enfin, super. Et ça tombe bien parce que le Tezuka, il y va jusqu'à publier 10 séries en même temps.
Il y a eu une production littéralement énorme. Je crois qu'il dessinait seul. Je crois qu'il a eu deux, trois fois un assistant, ils sont pas restés longtemps.
D'après cette manga là, un peu plus. Il aurait eu un peu plus d'assistants, mais à la fois, oui, il avait qu'un seul assistant, voire deux à la fois.
Mais le nombre de bouquins publiés,
ah oui. Mais d'ailleurs, en plus, ils disent, oui, à l'époque, les cadres des cases, par exemple, c'était le mangaka qui les traçait. Donc on le voit avec son équerre. Ouais, il est marre. Voilà, donc on assiste à des scènes surréalistes où les représentants des éditeurs, parce qu'il faut savoir que les éditeurs des revues de manga dans lesquelles il apparaissait, ils allaient mandater un représentant de leur maison d'édition. Ouais, tiens, toi tu vas surveiller Tezuka, tu peux dire adieu à ta vie de famille.
Ouais, ça s'appelle un chef de studio, la pratique existe toujours.
Voilà, et donc on voit des scènes surréalistes où ces représentants campaient dans la chambre de travail de Tezuka. Donc il était dans un hôtel, ensuite il allait revenir dans sa ville natale, ensuite il repartait à Tokyo. Et on voit aussi c'est complètement surréaliste où Tezuka il essaie d'échapper aux représentants des studios. Tiens, j'ai changé d'hôtel. Ah merde, comment vous m'avez retrouvé, zut. Et on
non,
le voit...
parce qu'en plus c'est des chieurs, hein. Chef de studio de mangaka, quand on veut essayer de faire une interview, et des fois il y a le mangaka qui vous prend à part, qui fait
j'arrive à échapper d'elle. S'il te plaît, fais-moi fuir. C'est vraiment hallucinant.
Ah ouais, et puis on voit les représentants faire la cololeux.
C'est
ah
le père Fouettard. Hein,
ouais,
c'est...
Ils disent, ouais, moi j'ai.
Plus vite, plus vite.
C'est moi qui ai reçu les planches le plus en retard de tout le monde le mois dernier, donc c'est moi qui vais passer avant ce mois-ci. Ils font des rotations comme ça, ils font des réunions pour décider qui c'est qui va être livré en premier. Et puis quand il y a un nouvel éditeur qui arrive, alors il y a Tezuka, il le fait passer par la fenêtre. Eh oh, comme ça, hey, l'autre il dort, il le verra pas quand je t'ai passé un manga. les planches en retard. Et on le voit aussi dessiner la nuit allongé sous une couverture parce qu'il passe des nuits blanches pauvre aussi pour avoir plus de confort. Il dessine couché. Et enfin bon bref, c'est un travail harassant, on le voit. Enfin
en même temps qu'il suit ses cours de médecine.
Et en plus il obtient son diplôme de médecine et puis il propose à un représentant à un moment donné, vous avez toujours vous voulez pas que je vous opère l'appendicite, ça va me changer des mangas.
Oui, parce que effectivement, il Say Hello to Black Jack, qui est une série dont le 7e tome vient de sortir en français d'ailleurs, qui est une série très réaliste sur le monde de l'hôpital au Japon, etc., et sur la chirurgie, etc. C'est en salutation justement à une des séries phares de Tezuka, et aussi par le fait qu'il a été médecin et qu'il aurait pu opérer. C'est quand même ça qui est fou.
Voilà, et ce qu'il y a de fou aussi, c'est qu'il faisait pas seulement de la manga, il s'était dit, je vais voir 365 films par an, 30 films par mois.
Et il a été animateur. Il a fait des dessins animés, mais les interviews.
Et les dessins animés, on le verra dans le 3e tome qui sera consacré justement à la partie animation. Et là, tout concourt à nous amener à ça. C'est-à-dire s'il dessine tellement de mangas, c'est pour économiser des sous pour faire ses propres films d'animation après. Et on le voit faire passer ses journées à revoir 30 fois Bambi pour essayer de copier comment ils ont animé ces putains d'animaux.
Ah merde, non, je croyais que tu parlais de Michael Jackson.
Non, c'est pas le même. Et c'est dans ce tome aussi qu'on voit naître les séries mythiques comme Le Roi Léo ou Astro Boy. Voilà, et en plus, alors, ce qu'il faut savoir... Les petits bips.
Ouais, ils sont partis en retard.
Et voilà, donc c'est là qu'on voit naître des séries mythiques comme ça. Et puis, alors s'il y a un truc qui est bien dans ce tome, c'est qu'on voit très bien l'intention de l'auteur quand il dit « Ouais, je vais faire Le Roi Léo parce que je veux rendre hommage à la nature, j'étais frappé par l'Afrique, etc. Si je veux faire Astro Boy, c'est pour ça, etc. » Donc les intentions sont très bien rendues. Par contre, j'ai un petit bémol à donner, je sais pas ton avis Xavier, mais toi tu l'as pas lu, c'est j'aurais aimé plus de précision concernant en quoi ces mangas ont été révolutionnaires pour l'époque.
Ils étaient révolutionnaires parce qu'il apportait un style graphique, d'abord parce que le manga c'était des images courtes un peu style strip comique à l'américaine, vous savez, Snoopy, etc., bande longue. Là il faisait vraiment des pages complètes. Ensuite il a amené le design de ces personnages qui ressemblent aux Merry Melodies des années 20, c'est-à-dire des films muets à la Frère Fleischer, Betty Boop et compagnie. C'est pour ça que ces personnages ont ce look-là. Et en même temps, c'est lui qui a stylisé par la foultitude de mangaka qui ont lu ça dans leur jeunesse et qui sont amusés à le recopier pour essayer de prendre la main du maître. En fait, la plupart justement des mangas des années 60, 70, 80 vont s'inspirer graphiquement de Tezuka. C'est pour ça qu'il est vu comme un dieu. Ensuite, il y a le volume littéralement énorme qu'il a amené. Ensuite, c'est des séries qui sont assez positives. On est dans l'après-guerre, le Japon est en train de se reconstruire, va évoluer énormément, et sous occupation américaine, hein, ne l'oublions pas, ouais, jusque dans les années 60.
Dans la manga, le contexte historique, dans cette biographie, n'est absolument pas éclipsé, et puis voilà, on suit parallèlement l'histoire du Japon, et puis l'occupation américaine, les États-Unis qui quittent le Japon, la transition en tant que pays occupé, puis pays libre, etc., c'est pas du tout éclipsé, c'est ça qui est intéressant.
Et alors que il va décider de faire un manga qui est adapté, en fait, d'une affiche, c'est ça qui l'a inspiré, c'est ça qui l'a propulsé, hein, ce manga-là, une affiche d'un film allemand des années 30, Metropolis, et il va amener une science-fiction plutôt heureuse. Donc il va redonner, je veux dire, il va être l'un de ceux qui justement vont donner foi en l'avenir à toute une génération de Japonais, puisqu'à l'époque le manga a une pénétration énorme en comparaison la pénétration de Tintin ou de Spirou en France n'avait absolument rien à voir, et pourtant à l'époque les illustrés tournaient énormément le jeudi dans les cours de récréation. Bref, Tezuka a littéralement porté à la fois un genre, mais aussi une mentalité et un niveau de création. Et bref, c'est grâce à lui que ça a réexplosé. Ensuite, il y a effectivement tous les genres qu'il a touchés, que ce soit de l'historique, que cela soit du charme avec Cléopâtre, que cela soit le roi Léon avec
Limalier. T'as dit le roi Lion là ?
Non, le roi Léo.
Ah bon, j'ai cru comprendre. sacrilège.
Si Disney s'amuse à me reprendre, hein, je vous rappelle qu'ils ont perdu le procès. Et bref, c'est tout. C'est le panel, c'est littéralement énorme. Et c'est vrai que Tezuka, ce sont des classiques énormes qu'il a fait. Il y a relativement peu de mangas qui soient des bouses dans ce qu'il a fait. Ce qui est quand même plutôt à signaler en général. Hein.
Voilà, il fallait pas parler de Tezuka devant Xavier. Et la conclusion, c'est que c'est une excellente.
J'ai tenu que 4 minutes.
Ouais, pas mal. C'était en tout cas une excellente entrée en matière dans l'œuvre foisonnante du maître. Et ça donne vachement envie de lire ces mangas, justement, même si le graphisme peut paraître un peu daté.
Voilà, et ces mangas sont traduits en France chez Glénat, aux éditions Kana, oui, il me semble, et chez Tonkam, bref, il y en a partout, et c'est pas un hasard, de toute façon, c'est Laurent Nespoulous, que je salue d'ailleurs, qui est en ce moment, qui est à Osaka chez lui, qui m'a dit que les éditions Kodansha, l'éditeur historique hein, de Tezuka, a commencé la publication de l'intégrale de Tezuka au rythme de un album de 300 pages par mois. Ils ont commencé en 79, ils ont terminé en 2003. Je sais pas si vous vous rendez compte le volume, c'est monstrueux. Et à côté de ça, il a fait des dessins animés, et notamment c'est lui qui a mis sur pied...
Mais ça, ce sera pour le tome 3. Voilà.
Allez hop, zou. Bon, bah, puisqu'on en est dans les japonais fous, hein, on va faire une interruption, puisqu'il est 13h05 sur la poubelle des radios supplément week-end sur Radio FMR, avec des albijoux à fou. Voilà. Et un teuf en moins. Monsieur Ferraille et son crétin de groupe, Fantasy Juvénile, tout au synthé. Faudrait faire revenir les requins marteaux, tiens.
On en a fait venir déjà un.
Oh, on verra. Du sport n'est pas là, donc il n'y a pas de télévision, ça tombe bien. Hein. Je t'avais dit qu'on aurait de la matière là en préparant. De toute façon, du sport, faut pas l'écouter. Hein.
C'est du sport. N'écoutez pas du sport. Il ne dit que des horreurs. Il est pire que moi.
Merci Guy Bedos. Donc, On voulait parler de japonais bien débiles, ouais, de monstres sacrés du cinéma.
Oui. C'est pas Godzilla. Alors, c'est l'occasion de saluer la sortie DVD du film Gozu, qui est sorti en France il y a quelques mois là déjà. Il est passé à l'Utopia notamment, et le film a été réalisé, je crois, un an avant au Japon. Il faut savoir que c'est un des nombreux direct-to-video qu'a fait Miike dans sa carrière, puisqu'il a.
Bon, alors dis le nom. Tu viens de le dire, le nom.
C'est Gozu.
Ben non, le réalisateur.
Ah, Takashi Miike, bien sûr.
Comment ça, il a caché Miike?
Alors, c'est l'histoire d'un Yakuza qui s'appelle Ozaki, qui est un tantinet parano et qui est persuadé que plein de gens sont anti-Yakuza. Un conducteur le croise sur la route, il est anti-Yakuza. Un caniche qui le regarde de travers est anti-Yakuza, donc on a une scène surréaliste où on le voit derrière une vitre en train d'éclater, un caniche sur la vitre et puis il le fracasse à coups de pied. Le boss de ce Yakuza charge le meilleur ami de ce dernier, Minami, à qui Ozaki a plusieurs fois sauvé la vie, de le supprimer. Mais suite à une crise cardiaque dans la voiture, celui-ci meurt un petit peu en avance. Donc l'autre, il a rien à faire. Pour prévenir son boss, Minami, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le cadavre de son meilleur ami dans la bagnole et puis il va téléphoner au café du coin. Sauf qu'en revenant, il n'y a plus de corps. Ah, c'est embêtant.
C'est ballot.
Oui, sauf que pendant qu'il téléphonait, il y a son boss. Ouais, c'est bon, il est niqué, il est mort. Je te rapporte sa tête ou son doigt, je sais plus, pour te prouver qu'il est mort. Ah, mais merde, il est plus. Suivant un semblant de piste, Minami va atterrir dans un hôtel complètement ch'tarb, tenu par une femme quinquagénaire nymphomane à la sécrétion lactaire débordante. Alors pendant qu'il dort, Minami, il y a du lait qui tombe du plafond.
Sécrétion lactaire débordante, ça me fait penser à de l'eau tiède sous un pont rouge, mais c'est pas du même réalisateur.
Non, c'est Shoei Mamura et c'est pas le même univers.
C'est quand même dans notre style.
Et cette tenancière de café à vin d'hôtel, elle est mariée à un adepte de séance de spiritisme qui marche une fois sur 100. Donc si vous voulez voir des séances de spiritisme ratées, allez voir précipitez-vous sur le DVD. Il croisera aussi sur sa route un mec au visage à moitié blanc, dû à une dépigmentation étrange, un hommage peut-être à un autre déglingué, Michael Jackson. Et il atterrira aussi dans un cimetière de bagnole qui propose aussi des costumes en vraie peau de Yakuza refroidi pour ceux qui sont trop timides pour se faire tatouer le dos. Et il croisera aussi un mafieux local qui ne peut bander qu'après s'être enfoncé une mouche dans le cul. Jusqu'au jour où il rencontre...
Je tiens à signaler que ce qu'il fait, c'est le vrai résumé.
Oui, c'est vrai. C'est vraiment dans le film. Jusqu'au jour où il rencontre une fille plutôt mignonne, mais manque de bol, elle prétend être son boss. Ozaki, qui refroidit et dont il recherche le corps. Tiens, c'est bizarre. Il est vrai que son boss savait que Minami s'était fait opérer du pénis juste avant l'Easter et qu'il ressemblait donc à la bite de Frankenstein. Donc, mais comment ça se fait qu'elle le sache? C'est peut-être son boss alors qu'il est réincarné dans cette fille plutôt mignonne. Enfin bon, je vais vous épargner la fin qui est absolument dantesque et ce serait un crime.
C'est qui le réalisateur déjà?
Takashi Miike?
Non mais attends, arrête d'insulter Disney, tout ça parce que je me suis trompé sur le Roi Léon. Miike Takashi.
Voilà. Ah oui, à la japonaise, voilà. Bon, mais voilà, en tout cas, c'est un film bien barré. Je vous en laisse un peu. Soyez rassurés, je vous ai pas tout raconté. Il y a encore bien des trucs vachement plus bizarres. Voilà, donc vous pouvez vous précipiter sur le DVD qui est assez pauvre en supplément, en fait.
Ah oui, carrément.
Ouais. Et le boss qui est qu'on croit mort et qui enfin qu'on voit plus son corps, c'est Sho Aikawa qui interprétait aussi l'un des deux rôles principaux dans la trilogie de Takashi Miike qui s'appelle Dead or Alive et qui est sorti voici un an et demi chez nous dont le DVD est également disponible dans notre contrée. Et Sho Aikawa jouait dans le 1 qui est un polar, il jouait le rôle d'un flic qui remplace son bras déchiqueté après un accident de bagnole par un bazooka nucléaire. Oui, c'est bien polar.
Mais c'est Cobra.
et dans le 3, c'est celui aussi qui fusionne avec un autre cyborg pour devenir un phallus géant en métal. Parti punir le maire psychopathe de la ville futuriste qui est homosexuel et dont l'amant est un joueur de saxo fou. voilà, vous l'aurez.
Je t'ai signalé qui fait une fois de plus un résumé tout ce qui est de plus journalistique et réel. Ouais. Des films de Takashi Miike.
Super réaliste. Alors, Dead or Alive, la trilogie, elle vaut le détour aussi. Donc, vous avez un polar assez. Enfin, moi, j'ai pas trop aimé le premier, il est assez vide. Par contre, le deuxième est vraiment un summum, assez proche de ce que peut faire Kitano, par exemple. C'est une comédie mélancolique, poétique et très très fraîche en tout cas. Et bon, l'OVNI de SF final, il est bien aussi, vous pouvez le voir, parce que celui-là c'est vraiment un autre film de taré. Alors vous me direz, mais quel rapport entre un polar, une comédie mélancolique et un film de SF? Il n'y en a pas, sauf que ça forme une trilogie, Dead or Alive, Dead or Alive 2 et Dead or Alive final. Et le seul rapport, c'est que les deux personnages principaux sont à chaque fois incarnés par les deux mêmes acteurs. Mais il y a pas de rapport.
D'un autre côté, s'il passe une petite annonce dans un journal spécialisé, je doute qu'il y ait beaucoup de monde qui se précipite. Surtout quand on voit, on l'a vu à la Cinémathèque récemment.
Au film Extrême Cinéma. Alors, rappelle-toi du titre du film.
Non, là, t'es...
The Happiness of the Katakuris, la mélodie du malheur.
Oui, pardon.
Voilà. Est-ce que tu peux nous renseigner sur l'histoire? Parce que toi aussi, tu vas faire un boulot journalistique assez bizarre.
Bon, alors, disons que l'histoire, c'est une famille qui décide de quitter sa petite vie en ville pour s'installer aux campagnes, au trou du fion, du fin fond d'une vallée, il y a un GR qui passe devant, un chemin de grande randonnée, mais pas souvent, des touristes. Et donc ils ont racheté une maison et ils ont décidé d'en faire un bed and breakfast. Le gros problème, c'est que le premier client qui vient, c'est par une nuit pluvieuse et il meurt. Oui, le deuxième client qui vient, en fait c'est un couple, un sumoto lui, donc gros costaud, avec une petite collégienne. Et si j'ai un conseil à donner aux petites collégiennes, c'est que quand elles veulent se faire un sumotori, faut pas être dessous, vous faites la position de l'hélicoptère, ce que vous voulez, mais vous mettez pas dessous parce que sinon vous mourrez dans d'atroces souffrances, surtout quand l'autre il est complètement crevé de fatigue après son coït. Bref, c'est une ignominie. Et ça se finit par la maison qui est déplacée dans un peu mieux, mais toujours en pleine campagne, mais on se demande comment. Enfin bref, c'est du Takashi Miike.
Si vous voyez le film, si vous aimez aussi les films d'animation d'un pote un pâte à modeler.
Ah ouais, très fort, surtout pour le générique du début, purement, je vais dire, écossais, c'est hallucinant, c'est un truc que ça n'a rien à voir.
Voilà, donc si ça vous donne envie de découvrir la filmographie déglinguée du japonais fou Takashi Miike, alors on va rappeler la sortie DVD de Gozu il y a à peu près 2 semaines, hein, voilà. La trilogie Dead or Alive que vous pouvez trouver en coffret tout blanc, assez sympathique et avec un DVD bonus en plus. Et donc la mélodie du malheur qui est sortie au cinéma, donc peut-être qu'il fera l'objet d'une sortie DVD dans pas longtemps, on sait pas, voir jamais. Ah oui, à signaler qu'en allant sur la filmographie du mec sur le net, il faut savoir que le mec il tourne 5 à 6 films par an au Japon.
La moitié c'est du téléfilm.
Oui, la moitié sort en vidéo, l'autre moitié sort au cinéma quand ils ont la chance d'avoir des salles pour les sortir. Et ben, en fait, vous serez pas surpris du tout d'ailleurs de voir qu'il aura fait un film de super-héros, Zebra Man, et que c'était lui normalement qui devait faire le remake de Zatoichi avec Kitano. Et on sait pas pourquoi il a été viré par les producteurs, ils ont dit bon, mais Kitano, tu le fais toi-même.
Je crois qu'il vaut mieux, ouais. Non, parce que, attends, les toutes belles caméras HD là qu'on vient d'acheter, on va pas les confier à cette espèce de taré. Continue en DV. Allez hop. Oui, parce qu'il tourne en numérique, hein. Ce qui permet du coup d'économiser dans la pellicule, dans les délires. Enfin bon, ça a rien à foutre.
Voilà.
Enfin voilà, donc c'est donc la trilogie de Dead or Alive et Gozu, donc sorti direct en DVD. C'est un peu dommage, hein, je vais dire, mais bon, pleurer à la Cinémathèque, ils en ont un stock, ouais. Et des fois ils les ressortent. Hein, donc,
oui, un truc surprenant, Gozu, il a été sélectionné à la Cassine des réalisateurs à Cannes en 2003.
Si. Oh non. Là, tu viens de me tuer. Thomas, donc tu viens de terminer. Pas d'agenda cette semaine. Non. Sinon, week-end long. Donc profitez-en tant qu'il fait beau. Hein, et évitez barbecue, les clopes et autres tarpés. Suffit de voir un film Takashi Miike, c'est fini. Et voilà, et vous avez suffisamment de lecture. La semaine prochaine, donc c'est un spécial Guide du Routard Galactique H2G2 au cinéma.
Pour saluer le retour du sport, espérons-le.
Non, du sport, il revient le 27. Le 27, justement, je ne serai pas là. On va pouvoir déborder pendant un bail. La suite des programmes en direct sur Radio FMR.
À 15h, Zarma Farai, excusez-moi. Voilà, hein, c'est un peu mieux comme ça. À 15h, Zarma Farai, c'est du reggae. Et Poupa, je te fais une bise tout plein, ainsi qu'à toi, à ton gamin, et puis voilà, et à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Doc, à Moissac et à Montauban. 17h, Vie d'ordure, c'est du Bunk Ben 277. À 20h.
Et oui,
j'ai un putain de
reflet dans le tableau.
Voilà, donc c'est Last Hetero Experience. Ouais, en plus, je suis arrivé à le dire direct. Eh ouais, super. À 21h30, Liquid Skies et de l'Enectron avec l'ancien DJ du club, l'Usination Disgonding Club. Ça, c'était en 98, vous pouvez pas connaître hein, ça encore une fois. Et à 23h, de la Drum and Bass Breakbeat Experience avec normalement Peyo et Red Eye. Enfin, Red Eye, je l'ai pas vu là récemment, donc je suppose qu'il est en vacances.
Peut-être.
Enfin, on verra. Enfin, ceci dit, Thomas, si vous avez manqué le début, le résumé de l'émission, s'il vous plaît.
Eh oui, l'émission a démarré sur une fabuleuse erreur de prompteur.
Ah, c'était assez phénoménal.
Un passage de Zombie Toffer dans le studio. Le petit Xavier qui prend un an de plus et donc il hérite d'un petit Marvin pour la route.
Espèce d'ordure, c'est toi qui as programmé la pub en plus après.
Ouais, et puis on a un petit débordement qu'on a réussi à faire à deux.
Ouais, deux, 20 minutes exactement au top.
Et voilà.
Top.
Donc du coup, pas besoin du sport hein, pour déborder.
Ah oh, tu vois, finalement, mais tu sais, avec du sport, on va déborder très bien tout seul tous les deux. Je trouvais que t'as été maigre là, seulement 20 minutes, hein, je sais pas. Vous pouvez retrouver les émissions de Supplément Week-end et donc savoir ce qui s'est passé effectivement durant l'émission si vous avez manqué le début. Tous les précédents numéros sont disponibles sur le site web de l'émission et aussi désormais en podcast. Donc pour trouver très vite les émissions, c'est très simple, vous tapez entre guillemets dans Google Supplément Week-end et puis après vous mettez un espace, vous mettez FMR et ensuite MP3. Et là, vous tombez sur le podcast et tout le reste. Et puis voilà, ma vie est sur grand écran de merde et tout le reste. Voilà, vous écoutez Radio FMR. Je tiens à remercier Bruce. Je tiens à remercier Rascal. Il ne sait pas encore pourquoi. Et à mon avis, ça va gueuler à la prochaine réunion. Et puis voilà. Et ceci dit, encore merci. Bien à vous. Ciao.
Ciao.